VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Conakry, 18h à Brazzaville, bienvenue à notre journal. Dialogue politique en RDC, malgré les bons offices des évêques nationaux, le rassemblement de l'opposition maintient son boycott des assises qui débute le 1er septembre. Joseph Olengakoy, membre du conseil des sages de cette plateforme que dirige Étienne Tshisekedi, leader de l'UDPS, l'a rappelé ce lundi après les consultations avec une délégation du rassemblement et la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo. M. Olengakoy est au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Les Congolais pensent que toujours notre bonheur viendra d'ailleurs. Mais cette fois-ci, nous allons prouver au monde que le bonheur du Congo viendra du sol congolais et par les Congolais
c'est
eux-mêmes.
Quoi concrètement, monsieur Olengakoy?
Concrètement, nous allons nous assumer et nous allons montrer au monde que nous sommes un peuple éveillé et qui connaît la direction de notre pays.
Jeudi, vous allez au dialogue.
Le rassemblement n'est pas engagé dans ça, ce n'est même pas un dialogue. C'est un forum Kondjo Kabila et avec tous les agglomérats de James Kabahare et puis avec les caméras là-dedans.
Joseph Olengakoy, membre du Conseil des sages de la plateforme de l'opposition de la RDC. Présidentiel de samedi au Gabon, le processus électoral a manqué de transparence, a déclaré aujourd'hui à Libreville l'eurodéputée bulgare Maria Gabriel, chef de la mission des 73 observateurs de l'Union européenne. Selon Mme Gabriel, la mission européenne déplore le manque de transparence des organes de gestion des élections qui ont omis de mettre à la disposition des parties prenantes des informations essentielles telles que la liste électorale et la liste des centres de vote. Par ailleurs, attente et inquiétude ce lundi à la veille de la proclamation des résultats officiels du scrutin. Les deux candidats les plus en vue, à savoir le président sortant Ali Bongo Ondimba et son principal rival, l'opposant Jean Ping, ancien président de la Commission de l'Union africaine, cherchent à rassurer la population. Plus de détails avec notre envoyé spécial sur place, Idriss Fall.
Le ministre de l'Intérieur a déjà annoncé que les résultats seraient annoncés mardi, c'est-à-dire 72 heures après le scrutin, comme le demande la loi électorale. Hier, l'opposant Jean Ping, devant ses militants, a déjà clamé une victoire et a essayé de rassurer ceux qui n'ont pas voté pour lui pour dire qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Et immédiatement après, le président sortant aussi a rassemblé ses militants non loin de la maison de Jean Ping pour les appeler au calme et assurer que lui, il est confiant et tout le monde attend les résultats. C'est la CEDAP qui doit d'abord les proclamer ce lundi au plus tard pour les transmettre au ministère de l'Intérieur. Beaucoup d'observateurs s'attendent à des révoltes si le verdict des urnes n'est pas respecté. Depuis Libreville, Idriss Fall, La Voix de l'Amérique.
Au Nigeria, le gouvernement formule de nouvelles propositions pour des pourparlers éventuels sur les otages de Chibok, les écolières kidnappées par le groupe islamiste Boko Haram. Les précisions de Chérubin Dorsil.
Dans une déclaration à la presse hier dimanche, le président Muhammadu Buhari s'est dit prêt à laisser Boko Haram choisir un organisme sans but lucratif comme intermédiaire dans toutes les discussions sur la libération d'environ 200 écolières enlevées en 2014 dans le nord-est du Nigeria. M. Buhari avait déjà fait une offre de négociation sur le dossier l'an dernier, mais le groupe extrémiste n'a pas fait de commentaire sur la proposition. L'échec du Nigeria dans la recherche des filles de Chibok a provoqué un tollé au pays et à l'étranger. Souvenez-vous, les critiques du prédécesseur de Buhari, Goodluck Jonathan, avaient déclaré que son gouvernement était trop lent à agir. S'ils ne veulent pas nous parler directement, qu'ils choisissent une ONG reconnue internationalement, a dit le président Buhari en marge d'une conférence au Kenya. Selon le dirigeant nigérian, des négociations pourraient commencer sur un échange de prisonniers si Boko Haram pouvait fournir des preuves à l'ONG que les filles sont toujours sous son contrôle. Des négociations avec Boko Haram seraient les premiers entretiens connus du public entre le gouvernement et les salafistes, dont 7 ans d'insurrection pour créer un État islamique dans le nord du Nigeria ont entraîné la mort d'au moins 15 000 personnes.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Mali, nouveaux affrontements intercommunautaires entre éleveurs et agriculteurs dans la région de Mopti, dans le centre du pays. Bilan 5 civils tués et 7 autres blessés samedi 28 août. L'incident à l'origine des accrochages pendant le week-end une affaire de vol de bétail. La tension entre éleveurs et agriculteurs est particulièrement forte dans cette région du Mali. Et toujours concernant le Mali, la population a suivi de près le procès du Touareg Ahmad Al-Faki Al-Mahdi à la Cour pénale internationale de La Haye. Ce dernier étant le premier Malien à comparaître devant la CPI pour atteinte au patrimoine culturel de Tombouctou au Mali. En attendant la confirmation de la peine retenue contre l'accusé, les Tomboutiens ne cachent pas leur joie, mais ils veulent aussi que d'autres criminels ayant commis des abus lors de la crise de 2012 passent devant la Cour pénale internationale. Écoutons le reportage de notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
C'est au Niger qu'Al-Mahdi Al-Faki a été arrêté avant son extradition vers la Cour pénale internationale pour destruction de mausolée à Tombouctou. À l'époque, la ville était sous contrôle djihadiste avec comme chef Abou Zeid Lassana Cissé, directeur national du patrimoine culturel.
Les autorités maliennes ont été bel et bien saisies. Ils ont donné leur aval pour son transfert à la Cour pénale internationale. Donc c'est avec l'accord du Mali, ça c'est sûr. L'importance d'abord, c'est que c'est un procès inédit. Pour la première fois dans l'histoire, un destructeur, un pilleur du patrimoine est mis devant le fait accompli, c'est-à-dire répondre de ses actes devant un tribunal juridique et judiciaire. Pour nous, c'est l'acte le plus important.
Pour bon nombre d'habitants de Tombouctou, ce procès montre combien le patrimoine culturel est important.
Il a été le cerveau de la destruction des mausolées de Tombouctou. Il court maintenant actuellement 9 à 11 ans de prison. Bon, moi, je pense que ça, c'est une peine qui est trop courte pour un terroriste qui a fait d'énormes dégâts en détruisant des mausolées, des lieux de culture. Ça, c'est impardonnable. Il doit avoir une peine de mort.
Au moment où la CPI a jugé Al-Faki, certains de ses patrons se pavanent entre les hôtels de Bamako au nom de la paix et de la réconciliation.
Au lieu de s'attaquer aux vrais responsables, ceux qui sont à l'origine de tout ça, les responsables derrière qui il y avait le mandat d'arrêt international élevé aujourd'hui. Mais la communauté internationale ne peut pas fermer les yeux sur ça et courir derrière des gens qui ont détruit des choses. On peut réparer alors que des gens ont enlevé des vies. Mais on ne parle pas d'eux. C'est pas juste. Il faut que ces responsables-là soient poursuivis, arrêtés et puis ils sont connus de tous. Et si la communauté internationale ne peut pas les pointer du doigt et les arrêter, nous, on peut les faire. Qu'ils nous demandent.
À Tombouctou, les populations sont très contentes de la tenue de ce procès, mais elles ne souhaitent pas qu'elles se limitent à Al-Faki seulement. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Carnage au Yémen, un attentat suicide revendiqué par le groupe État islamique a fait aujourd'hui 71 morts à Aden, dans le sud du pays. Le kamikaze a visé des jeunes recrues de l'armée yéménite enrôlées par le gouvernement en exil en Arabie Saoudite. Bagassi Koura.
L'explosion s'est produite dans la cour de l'école Sanafir du quartier Muammar Kadhafi, du nom de l'ancien dirigeant libyen. Le kamikaze a profité de l'entrée d'une camionnette de livraison pour lancer son véhicule contre les recrues rassemblées dans la cour. Selon un responsable de sécurité cité par l'AFP, la déflagration a provoqué l'effondrement du toit d'une salle de classe sur de nombreuses recrues. L'agence AMAC, organe de propagande du groupe djihadiste, a vite revendiqué l'attaque. Cet attentat, qui intervient sur fond de blocage du processus de paix entre rebelles et gouvernement, est le plus sanglant à endeuiller la ville d'Aden, déclarée capitale provisoire du Yémen, depuis son retour dans le giron du gouvernement en juillet 2015. Ceci illustre les difficultés qu'ont les autorités à rétablir l'ordre à Aden, en dépit des diverses mesures et de nombreux plans pour sécuriser la ville. Pour résoudre le conflit, le secrétaire d'État américain John Kerry a proposé jeudi dernier la formation d'un gouvernement d'union nationale.
Et pour terminer, au Bangladesh, John Kerry a affirmé lundi à Dhaka qu'il existait des preuves d'un lien entre les auteurs des récents attentats sanglants dans le pays et le groupe État islamique. Tatiana Mosso.
Le I avait revendiqué la prise d'otages sanglante dans un café de la capitale qui a fait le 1er juillet 22 morts, dont 18 étrangers. Mais les autorités du Bangladesh ne cessent de nier la présence de tout groupe djihadiste international dans le pays et rejettent la responsabilité des récents attentats sur le groupe islamiste local Jamaat-e-Tul Mujahideen Bangladesh. Le secrétaire d'État américain a défendu la première ministre accusée par l'opposition de diaboliser sa propre opposition. John Kerry a répété que les États-Unis étaient les alliés de Dhaka dans sa lutte contre les islamistes combattants. Les questions de sécurité et de coopération dans le renseignement ont dominé la journée de visite du secrétaire d'État. Mais celui-ci a souligné l'importance de la défense de la démocratie dans la lutte contre le terrorisme.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.